poule aux vanilles.
Je pense.
J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas. Deux boules vanille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous sur Canal B, c'est Deux Boules Vanille, votre émission estivale en juillet et en août, du lundi au vendredi, 17h-18h. Une émission qui vous proposera encore une fois la série Americana, quatrième épisode. On parlera avec Richard Delogu du festival El Dorado, qu'il a pu voir il y a quelques semaines de ça dans la Sarthe. Ce sera aussi le quatrième épisode de la série Une Autre Voix, proposée par Swazi Globay, qui a rencontré des femmes qui ont changé de vie professionnelle. Aujourd'hui, elle rencontre Julie Moreau, comédienne devenue cuisinière, un peu par la force des choses. Et puis, on retrouvera Léa pour les ondes graphiques qui prennent le large. Aujourd'hui, elle nous présente Ville Vermine, l'intégrale en poche chez Sarbacane. Et puis, on terminera avec un morceau chaud bouillant. Voici le programme donc de l'émission de Boule Vanille, à retrouver bien sûr sur canalb.fr. Bonne émission! C'est vendredi et tous les vendredis de ces mois de juillet et d'août, je vous retrouve pour Deux Boules Vanille et on y croise Richard Delogu. Bonjour Richard.
Bonjour Yann.
Qui vient nous parler Americana. Alors c'est un peu suite à une discussion qu'on a pu avoir comme ça. Tu revenais d'un festival dans la Sarthe et tu m'as dit « Oh, il y a eu des belles choses, j'aimerais bien en parler un petit peu ». Le festival en question, c'est le festival El Dorado. C'était pas sa première édition, un festival qui se déroule tous les deux ans. Et je veux bien que tu nous en racontes les meilleurs moments et puis comment il est né. Est-ce que tu le sais d'ailleurs, ce festival-là ?
Bah, il est né à l'issue de la disparition progressive, on va dire, de l'activité de Michel Pamplune, qui a fondé le label Fargo en 2000. C'est un label qui a sévi, on va dire, dans le champ de l'Americana, mais pas seulement du rock garage aussi, hein, pendant des années. Il a disparu en 2010, si je me souviens bien. Et il a donné lieu ensuite à différents avatars, quoi, on va dire une revue, puis aujourd'hui une activité de tourneur. Et Michel Pamplune a progressivement pris sa retraite parce qu'il est bon, il est plus âgé que moi, mais bon, c'est-à-dire plus de 50 ans, quoi. Mais je pense qu'il est pas très loin de la retraite, mais il est quand même hyper actif. Et juste pour vous dire, à partir de 2000, Fargo a quand même signé Chris Whitley, Richard Buckner, Chris Garneau, DeLorean, Jesse Sykes, dont on a parlé dans cette émission, Joseph Arthur, Neil Casal, qui est décédé il y a quelques années, malheureusement, The Bell Race, The Lords of Altamont, donc là, et les Morlocks. Donc là, on n'est plus du tout dans le champ de l'Americana et du folk. Josh Tillman, Allez la Diane, évidemment, Andrew Bird, Emily Loiseau, Great Lakes Swimmer, Shearwater, etc. Alors, Emily Loiseau, d'après Michel Pamplune, c'est son plus gros succès. C'est l'artiste qui a propulsé son label en France et c'est une artiste dont il s'est séparé aussi, enfin qui est partie de son label et qui lui a permis vraiment de prospérer pendant quelques années, de faire prospérer son label. Malheureusement, je dirais que le désintérêt global des Français, on va dire, pour ce style musical ne lui a pas permis de continuer.
Ah, c'est vrai qu'on entend Émilie Loiseau assez facilement dans les playlists de France Inter, mais beaucoup moins Jesse Sykes ou bien Shearwater.
C'est certain.
C'est sûr. Alors, tu as eu envie de nous donner quelques-uns des artistes que tu as pu voir à cette dernière édition du festival El Dorado. Et ils avaient quel terrain pour s'amuser? Enfin, ça ressemblait à quoi ce festival El Dorado?
Alors, deux scènes. Une scène minuscule, on va dire, sous une scierie, une ancienne scierie en fait, qui a été réhabilitée, enfin qui est en cours de réhabilitation et qui sert de cadre au festival. D'ailleurs, assez splendide, hein, le cadre, faut le dire.
On se croirait dans le Montana, etc.
C'est exactement ça. On se croirait dans le Montana. Donc, avec en plus, c'est une particularité, faut quand même le noter. C'est un festival familial qui est quasi exclusivement tenu par des bénévoles, et ça se sent parce qu'il y a vraiment un esprit famille dans ce festival. C'est-à-dire qu'on passe deux jours avec les artistes en question, puisqu'ils restent deux jours, puisqu'ils sont invités par toute la collectivité, la communauté en fait, qui s'est construite autour de ce festival. Et c'est vrai que tout le monde est très sympathique, on mange très bien, tout est bon et on est vraiment soigné, c'est-à-dire tout le monde est aux petits soins avec le public comme avec les artistes et ça se sent vraiment parce que les artistes sont hyper accessibles, hyper souriants et on peut discuter avec eux mais vraiment très facilement.
On va écouter pour illustrer cette édition 2026 du festival Eldorado et puis un peu parler par la bande comme ça de la Fargo Mafia. Eh bien, alors c'est pas une véritable mafia avec des souteneurs et tout ça et des escrocs, hein, non, c'est juste la famille Fargo, quoi, tout simplement. Tu vas nous parler de Dylan Leblanc pour débuter, que tu connaissais déjà auparavant, évidemment.
Oui, alors artiste assez incroyable et qui m'a été donné de découvrir grâce à Michel Pampune, puisque c'est vrai que les albums de Dylan Leblanc sont parfois un peu lisses, très pop, très lissé, très américain en fait. Et ça peut un peu, désarçonner dans le sens où on attend quelque chose probablement en France, les Européens, quelque chose d'un peu plus brut. Mais c'est un artiste qui se révèle vraiment en live. Une sensibilité absolument incroyable, une voix extraordinaire, un guitariste hors pair en plus, qui est quand même assez rare. C'est-à-dire qu'il est capable d'extrêmement bien chanter, de très très bien jouer ça en solo ou avec son groupe. Et ça reste un artiste hyper rare. Tous ceux qui l'ont vu en sont sortis vraiment assez marqués, en fait. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement émouvant, en fait.
Dans ce quatrième et dernier épisode d'Americana, une série de ces deux mois d'été dans De Boule Vanille sur Canal B, concoctée par Richard Delogu, on écoutait à l'instant Dylan Leblanc vu sur scène au festival Eldorado 2026. C'était dans la Sarthe il y a quelques semaines et ça t'a donné l'envie de cette série-là. On va poursuivre avec un musicien que peut-être vous ne connaissez pas non plus. Il n'est pas si réputé que ça, peut-être, hors des cercles Americana. Il s'appelle Luke Winslow K. King. On va l'écouter dans un instant, mais tu peux nous le présenter évidemment en quelques mots.
Moi, je ne le connaissais pas du tout. Hein. Il était dans la programmation du Eldorado Official. Je tiens à dire que le morceau qui vient de, a été chanté en live par Dylan Leblanc et Allez la Diane au cœur, ce qui était quand même un moment assez rare aussi. Il y a pire, on va dire. De merveilleuses voix comme ça, c'était assez poignant. Luke Winslow King, on quitte vraiment le folk traditionnel pour celui du blues et du bluegrass, quoi. C'est vraiment très âpre. Il a une vieille Gibson qui est probablement aussi vieille que lui. Il a approché 60 balais. Extrêmement élégant. Vraiment l'américaine, c'est-à-dire costard, une Gibson, une vieille Gibson, un micro de Harmand, si je me souviens bien, collé sur la rosace de sa guitare et branché sur un gros Fender, et il envoie mais à mort, c'est-à-dire qu'il chante encore une fois à la perfection. Et ça, c'est vraiment marquant, c'est-à-dire que ce sont des artistes, on peut leur donner même une pagaie à la place de la guitare, je pense qu'on arriverait à être ému tellement ils sont talentueux. Et bon, ce sont des artistes qui font 200 dates par an à peu près. Je pense que voilà, ils ont, on va dire du bagage. Et c'était un moment extraordinaire. Il était acclamé sous la halle de la Syrie, et c'était un moment très rare aussi.
Eh bien, je vais découvrir, comme vous autres qui nous écoutez en ce moment, sans doute Luke Winslow King.
Calm my baby down when she gets wild. Stop trying to say, listen, baby. Everything gonna be alright, my love. Ain't no way to calm my baby down when she gets wild. Not on here. Talking about all the things we ought to done instead. Thank you.
Le Queen's Locking à l'instant, et on arrive à la toute dernière sélection. Mais rassurez-vous, Richard Delogu, qui nous a baladé sur les chemins de l'Americana, a concocté une grosse playlist, hein, dont je vous mets sur canalb.fr. Eh bien, tous les artistes, tous les titres, de quoi occuper votre reste d'été. On terminera avec maintenant un autre musicien que je ne connais pas non plus. Tu l'as cité déjà, puisqu'il avait pu sortir des disques sur le label Fargo. C'est Richard Buckner. Présente-nous le bonhomme qui, là, était un peu plus connu, j'imagine, que Lunk Winslow King.
Pas forcément. Parce qu'en fait, c'est un des premiers albums qui ait été édité en France, enfin, tous les cas, qui est sorti aux États-Unis, mais édité par Fargo en France. Il est sorti en 2002. Label, enfin, c'est le titre de l'album, c'est Impasse. Et c'est vrai que c'est un artiste qui, depuis, fait très, très peu parler de lui. Je pense qu'il a plus ou moins arrêté, en tous les cas, d'être visible avec sa musique. Mais pourtant, c'est un artiste très talentueux avec, une signature sonore assez particulière. Qui tire un peu vers quelque chose d'assez électrique et tendu, et une voix assez singulière et raillée, qui tire vraiment vers la country, mais avec quelque chose de plus lo-fi, je dirais, qui tirait un peu plus vers la noisy, mais avec un son de guitare très très clair. Et c'est un artiste qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Malheureusement, il n'a pas eu le succès qu'on pensait. Il faut savoir que Fargo a ensuite signé Ryan Adams, qui est un artiste qui tirait d'un groupe qui a eu énormément de succès dans l'alternative country qui s'appelait Whiskey Town. Et c'est vrai que Ryan Adams, par exemple, a eu énormément de succès aux États-Unis. Bon, il a pas mal de problèmes avec la justice actuellement pour d'autres raisons. Mais c'est vrai qu'il a été beaucoup plus connu que Richard Buckner.
Non, c'est pas Brian Adams, hein, c'est Ryan Adams.
Rien à voir, en effet.
On va terminer donc avec éclairage sur un artiste pas assez connu, sans doute, Richard Buckner, avec le titre Born into Giving Up. Voilà, il est né pour abandonner. Ça dit tout, hein. C'est pas un winner, le gars. C'est peut-être pour ça.
Ah, on est dans l'alternative country. Ils sont pas tous très gays, ces gens-là.
Merci en tout cas, Richard, de nous avoir promené entre les origines de l'Americana, les musiciennes dans l'Americana, et puis aussi l'Americana vue d'ailleurs. Pour terminer ici avec ce retour sur le festival Eldorado. Si vous voyez passer l'annonce de sa programmation en 2028, puisque tu nous disais que c'était un festival qui a lieu tous les deux ans, je pense que si vous avez aimé les émissions avec Richard, là, eh bien, n'hésitez pas et retenez déjà vos dates pour le prochain festival Eldorado. Merci Richard, à bientôt.
À bientôt.
Born into giving it up. Closing down when it's done. With hardly a moment to spend before getting it back again. The longer you leave it, it's harder to see it. Like I was going to show is from something before I know. Whatever I said I might, oh, I take it back tonight. Silence, it wasn't in my hands. I tried just to feel it, though I knew I believed it. Turnarounds, can you stand?
Une autre voix, une série d'entretiens par Soisig Le Bay. Elles y ont pensé longtemps, réfléchi beaucoup et ont franchi le pas. Changer de vie professionnelle, c'est imposer. C'est aussi prendre des risques, quitter un certain confort. Mais être maîtresse de ses choix leur est apparu le plus important. Quatre femmes, quatre histoires différentes à chaque fois. Aujourd'hui, Soisig Le Bay rencontre Julie Moreau, comédienne. Elle a mis sa carrière en stand-by et ce n'est pas tout à fait un choix. Elle est aujourd'hui cuisinière.
Julie Moreau, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été longtemps comédienne. Vous avez fait l'école du TNB avec Stanislas Lordet. Et puis là, donc, vous avez décidé de changer. Est-ce un vrai choix ou est-ce que c'est un peu contraint par la situation ?
Je ne sais pas si c'est un vrai choix ou pas. Je sais pas. J'étais très titillée quand même dans ce mode de vie par faire aussi d'autres choses. Pas faire que du théâtre. C'est peut-être un peu bête, mais je trouvais que parfois le théâtre parlait peut-être de choses que j'avais envie de pouvoir expérimenter dans le réel aussi. Plus, j'avais énormément de temps libre à des moments. Et j'avoue que j'avais une sorte de malaise avec ce temps libre dont je ne savais pas toujours quoi faire. Une culpabilité, comme si j'étais un peu en dehors de la société. Puis le truc qu'on nous renvoie un peu d'enfant de bourgeois qui vit du chômage alors que les autres vont taffer tous les jours et tout ça. Y a eu ça. Mais ça, petit à petit, j'ai pu le régler. Et puis il y avait aussi le plaisir de faire d'autres boulots parfois. C'est assez génial, je trouve, de pouvoir faire deux ou trois métiers différents. Pour moi, c'est ça la perfection. J'aime pas faire qu'une chose. Mais le monde est ainsi fait qu'en général, on se spécialise dans un truc et puis on ne fait que cette chose-là. Voilà. Et puis, il y avait le fait aussi que plus ça allait, plus je... Enfin, bon, j'ai toujours été un peu comme ça. J'aimais bien dire oui que au projet que j'avais vraiment envie de défendre.
Mais vous auriez peut-être pu monter votre propre compagnie et dans ces cas-là, choisir vos textes ou les écrire.
Oui, mais monter sa propre compagnie, c'est encore une fois être seul. On est très seul déjà quand on est acteur, à part les moments où on travaille en équipe avec tout le monde. Mais tous les moments où on travaille pas avec quelqu'un, on est seul face à soi-même tous les matins dès 8h du mat. À éventuellement se demander ou pas qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là, qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie. Et on est seul face à ça. Moi, en plus, je vis seule, j'ai un enfant, donc je suis une mère seule. Je suis une femme seule, donc monter un projet encore seul, je l'ai fait. Je n'ai pas monté ma compagnie, mais à un moment donné, effectivement, je me suis dit, ça fait très longtemps que j'ai envie de monter un projet, donc je vais le faire. Mais après, il faut trouver des sous, il faut trouver tout ça. Pas si facile, et puis pas si facile du coup. Pour moi, ce n'est pas tant un problème de ne pas avoir de sous pour moi, mais je voulais au moins des sous pour des personnes qui travailleraient avec moi. Et les personnes avec qui j'avais envie de travailler, en plus, elles vivent pas forcément à Rennes. Bon, bref, j'ai trouvé un peu de sous, tout ça, j'ai commencé à monter un petit peu quelque chose. Et je suis contente de l'avoir fait. En cours de route, alors que ça faisait très longtemps que ce texte j'avais sous le bras, je me suis dit que c'était plus forcément ce texte-là que j'avais envie de monter. Donc j'en ai fait toute une partie, j'ai fait tout un bout du travail, et puis après j'ai arrêté là. J'ai dit non à un gros projet qu'on m'avait proposé qui fait que je serais encore intermittente aujourd'hui parce que la pièce m'intéressait pas et que elle m'obligeait à m'absenter très très longtemps de Rennes et que moi j'avais envie de pouvoir aussi profiter de la présence de mon fils, de mes amis, de tout ça. J'avais pas envie pour cette pièce-là en tout cas de partir si longtemps. Or c'est sûr que ça fait partie du travail d'acteur de partir. Ça fait partie du métier. Donc si on n'a pas envie de partir, ça peut être problématique. Bon bref, sur ce projet-là, j'ai pas eu envie. Et puis après, il y a eu toutes les coupes budgétaires et tout ça qui ont fait que tout d'un coup aussi, le travail s'est carrément amenuisé. Vraiment. Et donc, j'avais pris un risque sans mesurer totalement là où ça me mènerait, mais bon, ça faisait quand même en même temps pas mal d'années que dans ma tête, il y avait quand même des petites questions aussi par rapport à l'autre monde, on va dire.
Mais c'est comme si vous viviez dans un monde un peu irréel, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Vous vous sentiez comme ça?
Un peu, ouais, dans une autre bulle. Donc j'ai dit non à ce projet-là, donc finalement j'avais plein de temps libre, mais j'avais pas de grosses créas et tout, donc je savais que ça allait m'emmener vers la fin de l'intermittence. Donc l'année dernière, je me suis dit, cette année, et je la prends pour moi, je ne fais que ce que je veux. Alors finalement, la question du temps libre, elle a été carrément réglée, parce que du coup, c'était génial. Comme je m'autorisais, et je me suis mise à faire plein de trucs que je faisais pas avant, j'étais beaucoup là, j'avais énormément de temps libre, j'ai fait beaucoup de maraîchage aussi, et puis je me suis mise à écrire plus, à dessiner, à faire des chansons et tout, et j'ai adoré ce temps libre. Ce qui devait arriver arriva, j'ai perdu mes droits au chômage. Donc, il a bien fallu que j'aille chercher un boulot. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, parce que ça a été très dur de trouver un travail. Et j'avais pas du tout prémédité que mon âge éventuel pouvait rendre la chose difficile. Et puis, je veux dire, moi, je me suis mis mes diplômes, mais ma spécialisation, c'est le théâtre. Donc, comme pour tout autre travail, on demande des diplômes ou des trucs, moi, j'en ai pas.
Vous avez un niveau culturel.
Ben oui, mais c'est pas un niveau culturel qu'on nous demande pour être libraire ou bibliothécaire ou je ne sais quoi. Hein. On ne demande pas un niveau, on demande des diplômes. Donc là-dessus, ça a été niette, mais ça a été niette sur plein de trucs. Hein. Mettre les trucs en rayon à la Biocop, ça a été niette. Aide à domicile, la première fois que j'ai demandé, ça a été niette. Enfin, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quoi. Et je voulais pas travailler le soir. Finalement, j'ai trouvé un boulot, là, à Alaska, où j'avais déjà travaillé il y a quelques années. Donc, j'ai retrouvé ce lieu. Et j'ai déjà fait de l'hôtellerie, beaucoup, de la restauration et tout, plus jeune. Et puis, bon, je sais pas, je suis débrouillarde. Faut être débrouillard, faut être vif. Et faut être physique pour la restauration. Mais moi, j'ai ça. Non, mais j'ai ça. Ça n'a pas été facile d'accepter que c'était plus du théâtre que je faisais. Mais la chose surtout la plus difficile en fait à accepter pour moi, c'est pas le théâtre ou quoi, c'est de ne plus être maîtresse de mon temps. Ça, c'est vraiment le truc hard. Les meilleures heures de ma journée, je ne les donne pas à ce que j'ai vraiment choisi de faire. J'ai 48 ans. Je fais du théâtre depuis, j'étais au lycée quand j'ai commencé, mais à la fac j'en faisais et tout ça. Alors si, je suis allée bosser, j'ai arrêté la fac assez vite et je suis allée bosser dans des bars, dans des boulangeries et tout ça. Et on faisait du théâtre 3 jours par semaine avec des potes. Donc j'étais assurée d'avoir ces 3 jours-là où je faisais du théâtre. Le reste du temps, j'étais salariée, mais j'étais jeune. Et là, il y a quelque chose, enfin, de plus être maîtresse de mon temps, de rentrer, d'être crevée, de pas avoir le jus. De me mettre à faire des choses artistiques, de pas pouvoir même partir marcher, faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. En fait, moi, j'étais quand même très habituée à cette vie-là. Ben, ça, c'est très dur à accepter. Donc, je suis en travail de, entre guillemets, de deuil de la vie d'avant. Et je suis en travail de choix. Je suis en train de choisir ce que je fais pour pouvoir le faire vraiment et profiter pleinement de cette expérience-là que je suis en train de vivre. Sinon, je me retrouve en souffrance. Sinon, je suis pas contente d'être là, mais je suis pas ailleurs non plus. Et j'arrive pas, de toute façon, à tout mener de front. Et du coup, ça me met en souffrance. Donc là, je suis en train de laisser complètement de côté, d'accepter qu'il y a une grosse pause qui se met en place au niveau artistique pour pouvoir être pleinement là où je suis, qui est un autre terrain de jeu, mais qui est quand même un terrain de jeu, parce que je cuisine. Parce que il y a la relation avec les gens, parce qu'il y a l'équipe, parce que il y a un espace.
J'avais envie que vous me parliez un peu des aspects positifs de cette renonciation.
Oui, ben ça arrive, mais ça met du temps aussi. Moi, j'y suis que depuis le mois de janvier. Dans des conditions qui n'ont pas été non plus super favorables, parce qu'il y a une passation de direction et tout, ce qui n'a vraiment pas du tout aidé. C'est comme si on m'avait poussé en avant en me disant « vas-y, allez, faut faire tourner le truc maintenant, débrouille-toi ». Donc j'étais très 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 en stress et en angoisse, et pas du tout en capacité de profiter. Fallait y aller, ok, avec des jeunes personnes qui n'avaient jamais fait ça non plus spécialement, et moi je ne l'avais jamais fait vraiment non plus, de faire tourner le truc. Donc je commence maintenant à respirer, à voir que je suis capable de, à sortir la tête et puis à voir qu'il y a quelque chose aussi à accepter de lâcher pour pouvoir profiter de ce qui est là, là. Après, profiter de ce qui est là, bah, pour l'instant, à vrai dire, la question du temps, non, je ne m'en remets pas. Hein. En plus, je suis carrément moins payée que ce que j'étais payée avant. Juste, on va dire quoi, ouais, c'est chouette, j'ai trouvé un boulot. Et un boulot qui est quand même, qui a un cadre très confortable. Où les gens sont adorables, l'équipe est très chouette, les gens qui viennent, ben, ils sont cool, hein, ils viennent pour manger un petit bout, ils sont pas stressés quand ils arrivent là. Hein. Je suis pas en train de travailler aux acédiques ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est cool, je peux écouter de la musique toute la journée en cuisinant, on peut faire évoluer ce qu'on propose. En plus, c'est une brocante, donc moi, j'aime beaucoup ce côté-là, là, des objets, de la mémoire, des histoires et tout. C'est un lieu qui est assez ouvert, les gens que je connais peuvent passer, on peut rencontrer du monde, des gens nouveaux. Donc bon, il y a et j'ai trouvé un boulot tout près de chez moi. C'est marrant parce que avant je bougeais beaucoup et moi j'aimais bien ça et là je me retrouve à vivre dans une rue. Ça rabougrit sacrément la géographie de ma vie et comme en plus j'ai plus le temps de partir à droite à gauche et beaucoup moins les moyens, bah faut que je trouve un exil intérieur. Comme en ce moment, j'ai moyen le jus de dessiner ou de faire du théâtre et tout comme ça en solo, bon bah je lis. C'est mon exil. Je lis. Et j'écoute la musique. Voilà, pour l'instant, c'est mon appropriation du temps et de l'espace pour pouvoir voyager tout en étant salarié aux 35 heures.
Le cinéma, ça c'était...
Je vais beaucoup au cinéma.
Ouais, non, mais en tant que comédienne, non.
J'ai très peu d'expérience de cinéma et j'ai jamais eu le désir d'en faire. Par contre, je vais beaucoup au cinéma aussi, ça c'est un super exil aussi, j'y vais beaucoup. Et je vais au théâtre, beaucoup plus que quand j'en faisais. Quand j'en faisais, je sais pas comment dire, moi je préférais en faire qu'aller en voir. Oui. Mais là, j'y vais plus et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir de toute façon à voir les gens faire du théâtre. Parce que de toute façon, même si la pièce ne m'intéresse pas ou quoi, regarder les acteurs travailler, ça me passionne toujours. Et il y a quelque chose qui se déplace là, dans la manière de regarder. Il y a une tendresse, je pense, qui arrive dans ma réception et dans mon regard. Où avant, j'étais peut-être plus un peu plus dur, un peu plus critique, un peu plus ceci, cela. Là, il y a une sorte de tendresse. Le jugement n'est pas le même. Je me dis qu'ils ont de la chance de faire ce qu'ils font. Et je vois qu'ils le font avec cœur, en général. Qui est la chose qui compte le plus, je trouve.
Ça va peut-être encore changer. Vous ne dites pas adieu définitivement au théâtre ou bien pour l'instant vous vous dites que ça sera compliqué d'y revenir?
Alors, je ne dis pas du tout adieu au théâtre. Et je pense que ça sera compliqué d'y revenir comme j'y étais, je veux dire, dans les circuits dans lesquels j'étais, parce que c'est très simple au théâtre, si on nous voit plus on nous oublie, et puis il y a plein de monde, je veux dire, il y en a plein des actrices ultra talentueuses, donc voilà. En plus, ça voudrait dire peut-être retourner dans l'intermittence, donc avoir le nombre d'heures suffisant et tout. Mais c'est pas obligé, ça peut être aussi juste sur un projet. Mais je pense vraiment que bon, de toute façon, dans la vie, c'est là où on alimente les choses, que les choses grandissent. Donc si j'alimente plus l'endroit du théâtre, ça risque de péricliter. Après, ce que j'imagine, comme ça, c'est que moi, je vais en refaire. Mais peut-être je vais en refaire juste dans mon salon. Voilà, moi, je vais monter quelque chose. Moi, je vais me trouver une scène. Peut-être ça passera par la chanson ou par monter un petit projet à moi, je sais pas, mais j'aurai toujours envie de scène, d'une certaine manière. Donc je vais en refaire. Mais là, le travail dans lequel je suis, il est tellement nouveau quand même pour moi que faut, je sais pas comment dire, fallait déjà être là, totalement. Le changement de direction, tout ça et tout, c'est pas encore tout à fait fait, tout n'est pas encore trouvé. Et je me dis, bon allez, à l'automne, tout sera à peu près en place. J'aurai compris comment ça se passe. Je me serais peut-être reposée de la nouveauté du job aussi. Et puis, je vais retrouver de l'espace. Et là, je vais reprendre les rênes.
De quelque chose d'artistique.
Mais en même temps, j'écris beaucoup, hein, par contre. J'écris beaucoup, beaucoup.
Pour être publié ?
Pas du tout. Non, justement, ce qui est bien, c'est que c'est l'art pour soi. C'est pas l'art pour le résultat. C'est pas de l'art, d'ailleurs, ce que j'écris. Mais je veux dire, plein de choses que je me suis mise à faire l'année dernière, c'était plus du tout pour que ce soit vu. C'était juste pour le plaisir.
Et ça, vous ne le faisiez pas avant. Donc, ce changement de direction vous a ouvert des portes ?
Oui, je pense qu'il y a un truc que ça peut peut-être ouvrir. Ça déplace l'endroit où je posais la question artistique pour moi, qui était professionnelle, mais qui était aussi liée à entre guillemets, et oui, une envie de résultat. Alors que là, ce qui compte, c'est ce qui est vécu. Ce qui est la base de l'art. Hein. Mais bon, quels sont les rouages internes qui m'ont amené à faire du théâtre, auxquels j'ai cru et dont j'ai fait une identité, je crois que c'est tout ça que je suis en train de défaire. Donc est-ce que finalement je continuerai à en faire ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que les rouages qui m'amèneront à en faire si j'en fais, ils seront plus forcément les mêmes que ceux d'avant. Et le fait de s'autoriser finalement quand même à déboîter à un moment donné, totalement, ben, je pense que je serais jamais arrivée à me dire tout ça et à me rendre compte de tout ça si je l'avais pas fait.
Vous ne regrettez rien ? Ou bien un peu quand même ?
J'aurais bien aimé comprendre tout ça plus tôt. Bah oui, j'aurais bien aimé. Mais bon. Alors moi, je ne suis pas du genre à ne rien regretter. Je ne suis pas du tout la personne qui dit « Oh non, je ne regrette jamais rien, je suis à ma place, en accord avec moi-même et tout. » Moi, je suis quelqu'un de très désaccordé. et parfois, je regrette carrément des trucs. Et je trouve que je comprends les choses tard dans la vie. Et en même temps, sur la question du choix que vous posiez dès le début, là, bah en vrai, je pense que je suis pas là où je suis sans l'avoir choisi. Mais, quand même, je trouve que d'avoir son temps de vie pour soi, c'est quand même ultra précieux. Et que je trouve que ce n'est pas une vie que de donner son temps pour un salaire naze. Même si les gens sont chouettes, mais cette organisation de société, elle est terrible. Parce que moi, en plus, ça va, j'ai un boulot qui est chouettos, quoi. Mais c'est pas le cas de tout le monde et je vois pas le principe.
Et une créativité aussi, non, faire à manger pour les gens, c'est... ça vous rassure pas, ça ? C'est un beau geste, ça, quand même ?
C'est un beau geste. En fait, ouais, mais j'avoue que l'année dernière, l'expérience de maraîchage que j'ai eue, il y avait... Alors là, je le vivais comme quelque chose de très noble. Alors là, je faisais un métier vraiment noble. Je travaillais la terre et donc je sortais de la nourriture pour les gens. J'ai pas du tout ce rapport-là au restaurant. Non. Mais peut-être que ça peut venir, je veux dire, si on a envie de faire des choses très bonnes, pas très chères, tout tac tac, je veux dire que l'équation, on la pense vraiment et qu'on arrive à la placer à un endroit où vraiment, j'en sais rien, ça deviendrait presque politique ou sociologique ou quoi, alors peut-être j'aurais cette pensée-là, mais pour l'instant, c'est pas ça.
Mais vous êtes encore un peu en apprentissage.
Ben oui, bien sûr, complètement. Complètement, et je ne suis pas cuisinière, et mon petit orgueil et ma petite exigence de créatrice s'est pris une petite claque aussi au passage, parce que je n'ai pas cuisiné aussi bien que ce que j'avais envie Voilà. Et tous les midis, les gens peuvent vérifier direct ce qu'on a fait. Alors qu'au théâtre, d'abord on répète, après on garde les perles, et avec les perles on fait le spectacle. Là, il faut faire à manger le matin, quand les gens arrivent, on sert. Hein. On n'a pas le temps de refaire des plats et de ceci, cela. Hein. Donc bon, voilà, j'apprends.
Dans ce quatrième épisode de la série Une autre voix par Soisy Global, qui rencontrait aujourd'hui Julie Moreau, vous avez entendu sa sélection musicale, un titre de l'Éthiopienne Emaoy Tsege Mariam Gebru, et puis Sonic Youth que vous écoutiez à l'instant. Les vendredis dans l'émission De Boule Vanille, votre rendez-vous estival de juillet et d'août, nous retrouvons Léa. Bonjour Léa.
Salut.
Qui nous parle bande dessinée, comme dans l'émission Le Grand Tour, mais avec des formats poches, des formats qui se glissent partout et qui vous accompagnent pour vos vacances. Et aujourd'hui, dans cette chronique Onde Graphique Prenne le Large, la quatrième, eh bien, tu nous présentes Ville Vermine, l'intégrale, en poche, puisqu'elle existe depuis mai 2024. C'était paru chez Sarbacane et c'est un album de Julien Lambert.
Le titre annonce la couleur, une ville sale qui déborde de déchets et qui pulmoisit. Voleurs et autres trafiquants arpentent ses ruelles. Un cadre pas dingo et bien crado. Jacques Peuplier y est détective. Pour quelques sous, il est prêt à retrouver tous vos objets perdus ou volés. Il est particulièrement efficace car doté d'une faculté inédite. Il peut communiquer avec les objets. Radio, panneaux, poubelles, tout est susceptible de lui servir d'indique et de lui donner un sacré coup de pouce. Bon, du coup, la communication avec ses pairs s'avère délicate. Il passe un peu pour le fou du bus à brailler sur des trucs. Pas grave, il a la castagne facile et récolte rapidement des informations. Après s'être frotté à la famille de malfrats locales, Jacques est missionné, malgré lui, pour retrouver la fille de la grande chef qui a disparu. Il découvre alors qu'un vieux richou semble collectionner des libellules géantes et que des mystérieux hommes-mouches volants semblent pulluler dans la ville. Sa mission prend alors un sacré tournant. Dans l'intégrale en poche, ce polar fantastique nous plonge dans les tréfonds de la noirceur humaine aux côtés d'un anti-héros taiseux et bagarreur. L'univers est original et intrigant. L'idée d'objet parlant est super bien traitée. La narration chorale qui suit plusieurs personnages est dynamique, relevée par le dessin stylisé de Julien Lambert. De la bonne fiction divertissante, tout comme il faut.
Et il semblerait que la sélection musicale que tu as choisie pour accompagner cette chronique est aussi enthousiasmante, il nous semblerait.
Ouais, et un petit clin d'œil à la Coupe du Monde. Avec le titre Total Football de Parquet Court sur l'album Wide Awake que j'adore.
C'est la dernière de ces quatre chroniques Onde Graphique Prenne le Large. Mais bien sûr, et ça me fait plaisir, tu reviens dans l'émission Le Grand Tout en septembre.
Tout à fait, avec plaisir.
Eh bien, on se retrouvera à ce moment-là. Et puis sinon, bah voilà, vous pouvez oublier la Coupe du Monde, mais quand même, écouter football avec ce Total Football par Parquet Court. À bientôt Léo, merci.
À bientôt, bel été.
Thank you.
C'était Parquet de course à l'instant, un titre choisi par Léa dans les ondes graphiques qui prennent le large, numéro 4. Pour terminer de Boulevanie, voici un morceau qui servira peut-être un jour de générique de fin du monde. En attendant, il est tout à fait permis, voire chaudement encouragé, de se déhancher sur cette relecture bouillante par Lizzie Mercier-Desclous en 1979 du fameux titre Fire, à l'origine éructé en 1968 par le Britannique Arthur Brown. Les émissions de Boulevanie du mois de juillet vous seront où vous ont été, tout dépend du moment où vous écoutez, proposées en rediffusion en août. Playlist à retrouver sur canalb.fr. Je vous retrouverai en direct sur Canal B à partir du 7 septembre prochain pour une nouvelle saison de l'émission Le Grand Tout, du lundi au jeudi à 17h. Ciao ciao bambinos, bon été sur Canal B ou ailleurs.
To love.